Actes 7 et le verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Oh, juste un verset, on peut le relire. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. C'était un ordre venant de l'Éternel, un commandement, de faire le tabernacle, le témoignage, la présence. Vous savez, le tabernacle, c'est ce temple mobile qui a été construit. C'était comme une tente. Alors, on démontait, on remontait, voilà, différents lieux où le Seigneur accompagnait le peuple au fil des voyages. Et c'est dans le tabernacle que Dieu manifestait sa présence. Alors, ce qu'il faut bien insister ce matin encore, c'est se rappeler que Moïse ne l'a pas fait comme bon lui semblait. Il l'a fait selon un modèle. Oui, vous pouvez parler quand même. Voilà. Il l'a fait selon le modèle. Et on peut relire le verset qui est à propos. On va regarder dans Exode, puisqu'on va lire plusieurs versets. Je voudrais insister sur un point. Exode 25, on va regarder. Exode 25, et après on ira dans 39. Exode 25, on peut lire. Oui, par exemple, le verset 40, juste pour vous qui n'êtes pas habitués à ces différents versets, voilà, je vous encourage, les versets que l'on prend aujourd'hui dans le livre d'Exode, vous pouvez relire le chapitre en entier. Exode 25, 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fais selon le modèle, d'après ce que tu verras, celui qui t'est montré, tu feras d'après ce modèle-là. » On va lire au chapitre 39, regardez. Exode 39. Quand vous lisez tout ce chapitre, il y a quelque chose qui retient notre attention, et juste on va survoler les versets. On voit exactement, avec précision, comment le tabernacle a été construit. Des fois c'est un peu fastidieux, voilà, quand on lit, tatati, tatata. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir la précision dans les directives de Dieu. C'était, comme on l'a vu tout à l'heure dans les Actes, c'était un ordre de Dieu que Moïse a accompli avec précision. Et dans ce chapitre, il y a constamment cette insistance sur le fait, et j'insiste ce matin, sur le fait que tout a été réalisé selon les directives de Dieu. Moïse a bien fait d'après le modèle. Regardez par exemple au verset 1er, avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme, retenez, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 5, la ceinture était du même travail que l'éphod, et fixée sur lui, elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 7, on les mit sur les épaulettes de l'éphod et en souvenir des enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On peut lire d'autres versets, regardez le verset 21. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 26, une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service, comme, toujours ce terme, comme le modèle qui a été donné, des directives. Mais c'est impressionnant de voir la précision dans les détails. Et c'est pour nous une leçon, je pense, verset 29, la ceinture de fin lin retors, brodée de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 31, on l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 43, Moïse examina tout le travail. Et voici, Il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Voilà, on pourrait regarder encore bon, les quelques versets, chapitre 40. Allez, 40, verset 21, il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation, couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait adressé à Moïse. Verset 23, déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous avez le verset 25, 27, 29, 32, on lit ensemble, lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Amen. On connaît aussi les conséquences, puisqu'au verset 34, il nous est dit que la nuée couvrit la tente d'assignation. Alors aujourd'hui, où veut-on en venir ce matin? Le temple du Seigneur, qui est finalement aussi un petit peu un temple mobile. C'est nous. C'est nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce que nous sommes appelés à vivre doit être vécu selon un modèle. Vous savez, quand on parle de l'incarnation de Christ, quand on parle de le but, le projet, l'objet de la venue de Jésus-Christ sur la terre, on parle bien sûr du salut. Il est venu pour donner sa vie, mais il est aussi venu pour donner un modèle, pour nous montrer qu'il était possible de vivre autrement sur la terre des hommes lorsque le Saint-Esprit vient faire son habitation dans notre vie. Le temple ne doit pas être vécu n'importe comment, mais selon un modèle. Et nous devons nous attendre à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons nous attendre à l'effusion de l'Esprit de Dieu pour être amenés à vivre une vie bâtie selon le modèle de Jésus-Christ. On va lire ensemble un verset, Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Vous savez, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu, on ne va pas les lire tous ce matin, mais où nous sommes appelés à marcher comme lui-même a marché. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même des imitateurs de Christ. Il y a beaucoup d'exhortations dans ce sens, où nous sommes encouragés à suivre le divin modèle. Éphésiens 5, chapitre 1er, je vous le lis dans la version Semeur, mais vous pourrez suivre. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, pardon, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Alors, si je fais une petite parenthèse, c'est vrai, je ne le rappellerai pas à chaque fois, mais tout ce que nous allons partager concerne bien évidemment celles et ceux qui ont connu la nouvelle naissance. C'est l'action, la vie de Christ en nous qui va permettre de vivre ces réalités. C'est parce que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Suivez l'exemple de votre Père. Hein, donc, dans votre traduction, comme des enfants bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu, dans la version Semeur. Voilà, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Il est là le modèle pour nous. Marchez, que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés, il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, suivez l'exemple de votre Père. Alors je voudrais ce matin particulièrement m'arrêter sur cette dimension de l'amour de Christ qui nous a été laissé comme un modèle à imiter. Alors pas l'imitation pour imiter, mais un modèle, C'est ce que nous devons nous attendre normalement à vivre lorsque nous sommes enfants de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Nous devons nous attendre à vivre une vie conforme à la vie de Christ. C'est notre modèle. De la même manière que Moïse a eu ce modèle pour construire le tabernacle, nous avons aussi un modèle pour construire notre vie d'enfant de Dieu en comptant, bien sûr, sur l'action du Saint-Esprit. Vous vous rappelez ce verset, je vous le cite. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, pas n'importe comment, comme je vous ai aimé. » Vous avez vu tout à l'heure dans l'Exode, ils ont fait comme. Ils ont fait comme. Moïse avait reçu des ordres. Nous avons reçu aussi un ordre et un commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le titre de ce message, c'est tout simplement, eh bien, aimer d'après le modèle. Aimer d'après ce modèle que nous a laissé le Seigneur. Ce n'est pas une option dans notre vie, c'est un commandement, un ordre de marcher dans l'empreinte de ses pas. Mais finalement, on pourrait se poser la question, puisque Moïse sur la montagne avait reçu des directives très précises. Et je pense que pour que nous puissions nous aussi marcher comme le Seigneur a marché et de suivre ce modèle, il est peut-être important aussi de réaliser, est-ce que nous connaissons véritablement l'amour de Christ. Et je crois que nous sommes encouragés ce matin encore à plonger dans les Écritures, à voir comment Jésus-Christ s'est manifesté lui-même. C'est là la richesse de notre enseignement et de notre transformation à son image, c'est de voir comment il s'est comporté, quel choix a-t-il fait, quelles paroles a-t-il pu utiliser, parce que c'est ce modèle-là que nous sommes appelés à vivre. Regarde, avait-il été dit à Moïse, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et nous, la montagne, elle nous ramène aussi à Golgotha, le sacrifice de Christ à la croix, comme nous le rappelons encore ce matin. Est-ce qu'il n'est pas important pour nous aussi, pour vivre à l'exemple de Christ, est-ce qu'il n'est pas important, si nous voulons nous aimer comme il nous a aimés, d'avoir, jour après jour, une meilleure compréhension de l'amour de Christ dans nos vies? Quel est-il? Quelles en sont ses dimensions pour que nous puissions, à notre tour, le vivre dans notre vie? Et le défi est grand, puisque Jésus a dit que c'est à cela que le monde reconnaîtra que Dieu est véritablement au milieu de nous. Alors, c'est peut-être important pour nous, il y a peut-être une dimension aussi intellectuelle quand nous lisons la parole de Dieu, nous réfléchissons, nous méditons, d'analyser, de mesurer peut-être l'amour de Christ, afin que nous puissions, voilà, reproduire, faire comme cela nous a été montré. Alors, Éphésiens, toujours, chapitre 3. On voit que dans la construction du tabernacle, il y avait des choses extrêmement précises au niveau des mesures, au niveau de... C'est impressionnant. Quand on lit ces textes, on se dit, mais presque des fois, on se demande pourquoi. Mais je pense que Dieu est un Dieu de précision. Rien n'est fait au hasard. Voilà, il est très minutieux. Et l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens 3, 14, à cause de cela. Donc, de tout ce qu'il a dit précédemment, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je fais une petite parenthèse, je rappelle que la foi véritable, elle est fondée sur l'amour, une relation d'amour avec Dieu. Une fois que nous avons donné notre cœur à Christ, nous sommes enracinés, nous cherchons encore plus profondément à nous enraciner, nous sommes fondés, vie bâtie, véritablement, dans l'amour. Verset 18, afin que vous puissiez comprendre Avec tous les saints, quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur? Et quelle est la hauteur? Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est des versets extraordinaires, on les partage souvent parce qu'ils nous amènent dans une dimension qui nous semble pratiquement ce que nous vivrons dans le ciel, dans la gloire. Mais je crois qu'il y a des dimensions que nous sommes amenés à vivre aujourd'hui déjà ici-bas sur la terre pour peut-être grandir dans cette compréhension, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Donc ces différentes dimensions, verset fait un peu référence à ces dimensions que Moïse, enfin pour nous ce matin je veux dire, à ces dimensions que Moïse avait reçues et le peuple d'Israël a construit ce tabernacle. Oui, notre vie, elle est ce tabernacle, le temple du Saint-Esprit. Voilà, nous voyageons, nous allons de droite et de gauche, mais le temple de Dieu est là sur nos vies, dans nos cœurs et dans au plus profond de nos existences, afin que vous puissiez comprendre, connaître, avoir toute la connaissance de l'amour de Christ. Alors je vais tout simplement reprendre ces différentes dimensions, essayer peut-être de voir avec chacun d'entre nous la largeur. Question de la largeur, il est question de la longueur, il est question de la profondeur de l'amour de Christ, il est aussi question de la hauteur. Alors la largeur, ça nous parle de quoi la largeur de l'amour de Christ? Eh bien, ça nous dit une chose, c'est que c'est un amour accueillant. L'amour de Christ, vous savez, ce n'est pas un amour étroit qui ne s'adresse qu'à une catégorie de personnes. Quand on s'approche de l'évangile, parfois on a un peu cette notion dans l'esprit, est-ce que c'est l'héritage de la tradition, qu'importe. On a l'impression que voilà, ça ne concerne qu'une élite. Voilà, Dieu, il est disponible pour ceux qui ont suffisamment atteint une perfection ici-bas sur la terre. L'amour de Christ n'est pas un amour étroit, qui ne s'adresserait qu'à une catégorie particulière de gens, une sorte, vous savez, d'élite spirituelle. L'apôtre Paul est formel. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme dans Romains chapitre 2 et le verset 11. Il n'y a pas de préférence. On en fait, nous, parfois. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'en fait aucune. Tous les hommes, quels qu'ils soient, ont droit à l'amour et à la faveur de Dieu. Son amour s'étend sur tous les hommes, quelle que soit l'origine, quelle que soit la race, quelle que soit la condition sociale, quels que soient les défauts corporels, le handicap, quel que soit ce que vous pouvez imaginer dans ce melting pot un petit peu des créatures, Dieu les aime tous. C'est ça la largeur de l'amour de Christ. Il est écrit, c'est Jésus qui l'a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » J'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir dans Jean chapitre 12, et le verset 32. Et oui, cela, ça nous ramène à la croix. Vous savez, on donne souvent cette image quand il y a les bras de Christ qui sont comme cela, ouverts à la croix du calvaire. C'est comme un appel à l'amour de Christ pour tous les hommes. La largeur de l'amour de Christ qui s'étend à tous les hommes. Ce Jean 3,16 que nous rappelons souvent dit « afin que quiconque croit ». Afin que quiconque, c'est tous. Il n'y a aucune exception de personne. Et c'est ce que rappelle cette vision d'ailleurs de Jean dans l'Apocalypse. Il est dit ceci, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple et des hommes de toute nation. » Alléluia. Apocalypse 5, verset 19. Si vous regardez dans la vie de Jésus-Christ, puisque c'est là ce modèle que nous devons imiter, nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés, comprendre et réaliser, quand vous voyez comment Jésus a rencontré, comment il s'est approché d'une quantité impressionnante de gens différents, différentes conditions sociales, différentes situations. On l'a même appelé l'ami des pécheurs, parce que voilà, il a été même avec ceux qui étaient, parfois on parlait de la lèpre tout à l'heure, même de ceux à qui on devait véritablement et physiquement s'éloigner. Lui, il s'en est approché. quelle que soit la condition sociale. Ça pouvait être une prostituée, il y allait. L'amour de Christ, la largeur. Et si on peut arriver à comprendre la différenciation de l'espèce humaine, peut-être la couleur de la peau, la situation sociale, etc., etc., eh bien, vous comprendrez mieux peut-être la largeur de l'amour de Christ. Le psalmiste dit « L'Éternel est bon envers tous les hommes et il est plein de tendresse pour toutes les créatures. » Si un homme, une femme, ici, sur la terre, je pense souvent à... Vous savez, les enfants, ils ne se loupent pas quand on voit dans les cours de récréation. C'est impressionnant d'ailleurs comment il peut y avoir de la discrimination dans le cœur des enfants. C'est même troublant parfois. Hein, celui-là est trop gros, est trop maigre, petit. Vous savez que ça a des répercussions importantes. Hein, et on voit parfois des gens dans leur vie adulte avoir été tellement blessés et discriminés. Qui que nous soyons, devons comprendre que devant l'amour de Christ, il n'y a plus aucune discrimination. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Oui, la croix, elle est comme cette représentation pour nous de la largeur de l'amour de Christ qui s'étend à tous les hommes. Et nous aussi, nous sommes appelés à aimer comme Christ nous a aimés. Non seulement nous pouvons en être les bénéficiaires, mais nous avons quand même aussi une responsabilité, un commandement. Comme Moïse a eu cet ordre, eh bien de créer ce tabernacle selon le modèle, nous aussi, nous devons être appelés à vivre conformément au modèle de Christ. Cette largeur de l'amour de Christ qui nous fascine, nous impressionne, nous sommes appelés à la vivre aussi. Vous savez, on vit dans une société où le racisme est parfois grandissant, hein, on le voit dans certaines situations. Parfois, ça grandit dans nos familles, dans des discussions, ça peut même amener à certains choix au niveau des élections. Je crois que nous avons un témoignage à donner, nous aussi, à témoigner de l'amour de Christ qui aime tous les hommes, quelles que soient ses origines, ses mœurs, qu'importe sa culture. Dans l'Église, discrimination zéro. Alléluia. Eh oui, c'est le modèle que nous sommes appelés à vivre. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Accueillez-vous donc les uns les autres, hein, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Dans Romains, chapitre 15, verset 7. Ça, c'est ce qu'on peut dire de la largeur, un amour accueillant, aucune discrimination. Il aime tous les hommes. On peut parler un peu de la longueur aussi. La longueur, ça nous parle d'un amour qui dure. Et oui, parce que ça aussi, c'est une autre dimension de l'amour. L'amour de Christ n'est pas un amour de courte durée. C'est pas un amour qui dit un jour, je t'aime à la folie, et qui le lendemain te dira, je t'aime plus. Et tout au long du ministère de Jésus, nous voyons combien Dieu a manifesté de la bonté envers tous les hommes, comme je viens de le dire. Et même si parfois, et on pense à toute la passion de Christ, même si parfois les hommes lui ont rendu la haine pour l'amour qu'il manifestait, il n'empêche que Jésus a été déterminé à continuer à les aimer jusqu'au bout. Et c'est encore à la croix que nous voyons cette dimension, la longueur de l'amour de Christ, qui est un amour durable. Quand Jésus dit ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » dans Luc, chapitre 23, verset 34. Cette longueur de l'amour de Christ, elle se révèle par cette capacité à ne pas se lasser de pardonner. C'est l'Éternel qui le dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours au bénéfice de l'amour de Christ. Il nous aime. Vous savez, c'est un petit peu comme des parents, on aime nos enfants, quels que soient les chemins, les choix qu'ils peuvent être amenés à faire. Même si parfois ils peuvent être un peu moins aimables, nous les aimons pareil, du premier jour jusqu'au dernier jour. Presque les plus pénibles, des fois, on a une relation presque plus forte. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est de réaliser que c'est vrai que nous ne sommes pas toujours au bénéfice de l'amour de Christ. Et ce n'est pas parce qu'il varie dans son amour, mais c'est parce que dans nos choix, nous nous éloignons, nous nous écartons, nous voulons... Vous savez, c'est un peu... Ah, j'ai respecté. Nous faisons un petit peu parfois comme le fils prodigue, vous savez. C'est lui, il a choisi de quitter, de partir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il s'est retrouvé quand même dans une condition extrême de la vie. Est-ce que l'amour du Père avait changé pour lui? Non. Il n'en était plus au bénéfice par son choix personnel. Et nous aussi, nous pouvons être amenés parfois dans notre vie à nous écarter. L'amour de Dieu ne change pas. Et il suffit de le voir quand le fils prodigue revient vers son père. J'aime ce verset où il est dit « Il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit. Et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Ça doit être extraordinaire de réaliser que l'amour du Père n'avait pas changé. Et la longueur de l'amour de Christ, c'est ça. C'est un amour qui dure. Vous savez, l'amour du peuple d'Israël, on le lit dans toute l'Ancienne Alliance, a beaucoup varié. Des fois en haut, très fervent pour le Seigneur, et des fois au ras des pâquerettes. Mais l'amour de Dieu à l'égard de son peuple n'a jamais fluctué. Et ça, c'est une conviction que nous devons avoir. Je vais lire quelques versets avec vous, je vois que l'heure passe, mais dans Néhémie chapitre 9, Néhémie chapitre 9, je sais que nous avons du mal à comprendre la constance, la persistance, la continuité de l'amour de Dieu à notre égard. Et pourtant, elle est réelle. Et nous devons connaître et comprendre cette dimension de l'amour de Dieu, sa longueur. On ne va pas lire, relisez-le tranquillement chez vous, le chapitre 25, juste quelques versets. On va lire, allez, verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain. Quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. On va lire au verset 26, parce que là, on a l'impression, quand on vient de lire ce qu'on vient de lire, que ça y est, c'est gagné. Néanmoins, ils se soulevèrent, et se révoltèrent contre toi. Voilà, le fils prodigue. Hein. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, et ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Amen. Tu les délivras maintes fois. Verset 30, tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtèrent point l'oreille Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Amen. Relisez ce chapitre, l'extraordinaire, pour justement réaliser la persistance, la continuité, oui, on peut dire la constance de l'amour de Dieu. Et nous, c'est difficile pour nous. C'est difficile de comprendre. Un jour, Pierre s'est approché de Jésus et a dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Quand on vient de lire ce qu'on vient de lire, on peut se poser la question, voilà, jusqu'où sera-ce jusqu'à 7 fois ? Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, dans Matthieu chapitre 18, verset 21. La longueur de l'amour de Christ nous parle d'un amour qui ne varie jamais, qui ne change pas, qui ne fluctue pas, il ne varie jamais. Il est dit que même cet amour s'est manifesté à notre égard avant même que nous pensions à lui. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Arriver à comprendre les dimensions de l'amour de Christ, c'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas du tout dans le schéma de ce que l'on peut vivre humainement sur la terre. Je crois que la juste mesure de la longueur de l'amour de Dieu qui ne varie pas et qui contient finalement notre passé, notre présent et aussi notre avenir, se résume dans ce verset de l'Éternel dans le livre de Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel. » Alléluia. Jérémie 31, verset 3. Jésus l'a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voilà l'amour dont nous avons été les bénéficiaires. Vous aussi, aimez-vous du même amour que j'ai manifesté pour vous. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile d'aimer sur le long terme. On dirait que la situation normale, je prends par exemple le couple, c'est être séparé, divorcé, etc. Je fais une petite parenthèse. Bon, on avait des enfants qui rencontraient un psychologue et voilà, qui parlait, qui expliquait que voilà, c'est bien d'avoir un papa, une maman, tout ça, etc. Et de pouvoir vivre et de grandir et dans l'éducation et tout ça. Et le psychologue de rétorquer ceci, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le modèle de parentalité le plus courant ? Et c'est vrai que quand on regarde autour, quand les enfants, le modèle le plus courant, c'est finalement des parents qui sont divorcés. Pourtant, un jour, on s'est dit, on s'aime pour la vie. Pourtant, un jour, on a dit, on est prêt à tous les sacrifices. Et puis, chemin faisant, il est difficile d'aimer sur la longueur. Au début, ça va. Et quand les caractères se confirment, s'affirment, c'est un peu plus compliqué. Vous savez que dans l'Église, c'est pareil. Eh oui, on n'a pas tous des caractères simples, faciles. Voilà, on a tous des... Et pourtant, nous devons témoigner d'un amour persistant. Nous devons aimer avec fidélité, même avec ceux qui sont les plus pénibles au milieu de nous. Nous devons aimer sur la longueur du temps. Vous savez, des fois, quand on arrive dans certaines églises, tout est beau, tout est nouveau, on ne connaît personne, tout ça. C'est le modèle que nous a laissé le Seigneur. Il est écrit, c'est Paul qui l'écrit dans Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres ». Comme l'a dit notre frère Roussel dernièrement, supportez-vous, c'est pas... Non, c'est porter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même. Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà, ça c'est la deuxième dimension de l'amour de Christ. Oui, la largeur, Dieu aime tous les hommes. La longueur, il aime toujours, de la même manière. On pourrait parler, allez, on prend quelques temps, si on ne termine pas aujourd'hui, on pourrait quand même parler de la profondeur de l'amour de Christ. Mais l'amour de Christ, c'est un amour qui se donne. Et là, on touche, dans la profondeur de l'amour de Christ, on touche vraiment au cœur de Dieu. Vous savez que Dieu est amour. Et là, dans la dimension de la profondeur, c'est vraiment son cœur. L'amour de Christ qui s'adresse à tous les hommes, l'amour de Christ qui ne connaît pas l'usure du temps, comme nous venons d'en parler, a ceci aussi d'extraordinaire. C'est qu'il est prêt à tous les sacrifices. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Jésus-Christ, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point et en tout, tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix, Philippiens chapitre 2 et le verset 6. Oui, l'amour de Christ, il est prêt à tous les sacrifices. Ce n'est pas un amour superficiel. Il est prêt à tout pour le bien de l'être aimé. Vous vous rappelez, ça nous a été rappelé, je crois que c'est notre frère Claude Roussel sur la prédication, sur la sagesse, nous a rappelé du jugement de Salomon. Vous vous rappelez, c'est deux prostituées, voilà. Un enfant avait été étouffé. Il est écrit ceci, le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Il est écrit ceci, « Alors la femme dont le fils était vivant, elle sentit ses entrailles. » Elle sentit ses entrailles. C'est au plus profond. Elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir parce que c'est elle qui est sa mère. » C'est elle qui est sa mère. Parce qu'au plus profond de ses entrailles, il y a cette expression vraiment, les entrailles, elle s'est émue profondément pour son fils. Cette femme, elle a prouvé un amour authentique pour son fils qui est prêt à sacrifier. Et je crois que aussi Dieu a prouvé son amour envers nous. La profondeur de l'amour de Christ, c'est qu'il est prêt à tous les sacrifices. Il est écrit ceci, « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. » Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie dans 1 Jean chapitre 4, verset 9. Le Père, il est un peu comme cette femme qui allait voir que son Fils allait être coupé en deux. Le Père céleste savait que nous partions droit pour la mort et il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que par lui aujourd'hui nous ayons la vie. La profondeur de l'amour de Christ. C'est un amour qui est prêt à tous les sacrifices. Je parlais de cette dimension d'entrailles et j'aime rappeler ce verset où il est écrit ceci, c'est Zacharie qui parle et qui dit « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde, de Dieu. Tout comme on l'a vu pour cette femme. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est au plus profond de son... Dieu est amour. Et quand il a vu que nous étions perdus, il n'a pas hésité. Il a fait ce qu'il fallait pour que nous ayons la vie. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, dans Luc chapitre 1er et le verset 76. Je dirais que la juste mesure de la profondeur de l'amour de Christ, eh bien c'est Jésus qui la donne lui-même en disant ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans Jean chapitre 15, verset 13, c'est bien encore à la croix que nous voyons cette dimension extraordinaire de l'amour de Christ. La profondeur de l'amour de Christ, un amour qui est prêt à tous les sacrifices. Alors, rappelons-nous que nous sommes appelés à nous aimer comme Christ nous a aimés. Et on peut dire aujourd'hui que de superficialité se cache derrière le mot « je t'aime ». Et je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on se rend compte que sur ce mot « je t'aime », on n'est pas forcément prêt. On voudrait que cet amour soit exempt de beaucoup de sacrifices. Et dans l'Église aussi, nous devons dépasser l'amour superficiel pour nous aimer d'un amour qui se donne avant tout. C'est ça la profondeur de l'amour de Christ, prêt à tous les sacrifices. Un amour qui se donne avant toute chose. C'est Jean qui le dit, nous avons connu l'amour. Voilà, le modèle c'est ça. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. On y revient. Là, on est au cœur de nos vies. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il restera à la hauteur et j'ai envie de le regarder tranquillement. Alors on le fera une autre fois